Bonjour à tous, je suis Soufia Habita et vous écoutez We Can Be Her, un podcast pour sensibiliser à la mixité dans le numérique réalisé au nom de l'association Femmes du Digital West. À ce qu'il paraît, aujourd'hui, une femme peut devenir ce qu'elle veut. Et pourtant, nous nous posons encore trop souvent la question de notre légitimité dans le monde du numérique. Une fois par mois, je vous présenterai un portrait de femme ou d'homme qui, j'espère, vous inspirera. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui Véronique Hiller, responsable marketing chez ICEDAP à Angers. Avec Véronique, nous nous connaissons un peu, car elle est au CA de l'association Femmes du Digital West depuis quelques années déjà. Elle nous présentera le parcours qui l'a mené jusqu'à son poste actuel, son engagement et quelques idées pour faire avancer la cause. Bonne écoute. Bonjour Véronique.
Bonjour Soufia.
Je te remercie d'avoir accepté l'invitation de FD West pour le podcast. Est-ce que tu vas bien?
Oui, ça va parfait, super bien aujourd'hui, il fait très beau, c'est génial.
Dis-nous tout, quel est ton métier et dans quel cadre tu l'exerces?
Alors, moi je suis responsable marketing, je travaille dans une société d'édition et de formation à distance. C'est une entreprise qui évolue dans le secteur principalement de la banque, de l'assurance et de la gestion de patrimoine. Cette société est implantée depuis plus de 30 ans dans son savoir-faire métier. Elle a commencé avec un savoir-faire qui était plus orienté autour de la production de bagages de formation pour des formateurs en fait. Et puis de fil en aiguille dans ces formations, les apprenants demandaient aussi des fiches de synthèse pour retenir l'essentiel de la formation. Ça a donné lieu en fait à la création de fiches qui sont devenues au fur et à mesure des années des livres, qui sont devenues une collection, qui est devenue une intégrale, et ça a eu un véritable succès, principalement notamment en banque, et c'est le début de l'entreprise vraiment sur la partie édition. Et puis au début des années 2010, l'entreprise a évolué, il y a eu de nouveaux associés qui sont arrivés et ils ont vraiment fait le choix du numérique en se disant toute l'activité qu'on a qui porte principalement sur la création de bagages de formation et sur de l'édition, on va essayer de la numériser, faire en sorte que l'apprenant apprenne directement à distance, en ligne. Et en fait, au tout départ, c'est passé principalement par la création de modules e-learning. C'est comme ça qu'on appelait ça au tout début, qu'on appelle ça encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais on peut dire que ICEDAP, l'entreprise dans laquelle je suis, a été vraiment précurseur, pionnier dans ce domaine-là. Avec un réel parti pris, qui était un parti pris un peu osé, on va dire, puisque, pour rappel, une formation, c'est sur une journée, 7 heures à peu près de formation en présentiel. Et quand on a commencé à vouloir transposer tous ces contenus, l'entreprise s'est dit « Non, nous, on ne fera pas 7 heures de formation en distance. C'est impossible pour l'apprenant. D'un point de vue pédagogique, on est complètement à côté de la plaque. Donc, on va essayer de synthétiser au maximum les contenus, de beaucoup travailler sur le contenu et bien sûr de travailler sur tout le processus pédagogique pour faire en sorte que l'apprenant puisse aussi, de façon assez ludique, apprendre avec un certain nombre d'activités qui sont diversifiées, du quiz, du glisser-déposer, enfin plein de choses qui ont beaucoup évolué depuis, mais qui ont commencé comme ça. Et c'est vrai qu'au tout départ, quand cette proposition a été faite par l'entreprise à nos clients, ils étaient très étonnés en pensant qu'en fait les formations en ligne allaient durer une journée entière. Donc ça n'a pas forcément été quelque chose de simple à instaurer. Mais assez rapidement, quand ils ont commencé à les mettre en œuvre, ils se sont aperçus qu'en fait, d'un point de vue apprentissage, c'était effectivement efficace. Et c'est comme ça que l'entreprise s'est développée et puis a fait le choix de tout transposer en numérique. Moi, c'est vraiment un des points quand j'ai rejoint l'entreprise qui m'a marqué. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je les ai rejoints. C'est parce qu'en fait, on parlait souvent de transformation numérique des entreprises. Mais je n'avais pas toujours en face des entreprises qui réellement arrivaient à mettre en place, enfin d'un point de vue pratique en fait, vraiment à mettre en place opérationnellement ce numérique en fait. Et j'ai trouvé qu'en fait ICEDAP l'avait fait en 4-5 ans, ils ont totalement inversé leur chiffre d'affaires en fait. Tout ce qui était quasiment édition papier est passé en numérique. De ce point de vue-là, c'est réellement un beau succès. Enfin, c'est un succès indéniable. Ensuite, l'entreprise a continué à diversifier son activité numérique à travers notamment des MOOCs, à une période où il y avait beaucoup de demandes, des parcours aussi en mobile learning, et puis aussi, j'ai oublié de le citer, mais en fait, la transposition numérique qui a été faite sur les modules d'apprentissage ou les bagages de formation, elle a été aussi faite à partir de nos éditions papier, en se disant, puisque tout le savoir-faire qu'on a dans nos éditions papier, qui était lié au monde de la banque, de l'assurance, de la gestion de patrimoine, c'est une véritable richesse. Tout ce contenu-là, on va le transposer dans une base d'information qu'on appelle, nous, base de connaissances, et qui est en fait aujourd'hui devenue une véritable référence dans le monde bancaire. C'est utilisé par plus de 150 000 utilisateurs chaque année. C'est une base d'information qui est à jour en continu et qui permet en fait de délivrer de l'information fiable, synthétique et surtout à jour à tous les conseillers, quel que soit leur profil, pour qu'ils puissent, eux, avoir la bonne information programmation au bon moment et pouvoir aussi bien conseiller leurs clients finaux. Et ton rôle dans tout ça?
Alors moi j'ai rejoint l'entreprise il y a 4 ans, il n'y avait pas forcément de culture marketing, donc c'était à moi en fait d'apporter aussi toute cette culture, commencer à structurer l'offre, à bien comprendre notre marché, à comprendre aussi quels pouvaient être les besoins dans d'autres secteurs d'activité. C'est vrai que la formation est en perpétuel mouvement, il y a beaucoup d'évolutions, beaucoup d'ébullitions, il y a beaucoup aussi d'interrogations de la part de nos clients qui se sont vraiment vraiment renforcées à travers la crise sanitaire, puisque une grande majorité de nos clients grands comptes faisaient beaucoup de formations en présentiel auparavant, et qu'aujourd'hui bien évidemment la crise sanitaire a impliqué de passer sur des formations en ligne avec parfois des succès plus ou moins bien réussis, enfin ça fonctionnait pas toujours, et donc en fait aujourd'hui on sent qu'il y a une véritable, il y a à la fois un engouement d'essayer de trouver des solutions qui soient efficaces en formation à distance tout en préservant aussi l'apprenant pour qu'il soit dans un écosystème où réellement il y ait cette notion de pédagogie, de retour sur investissement et puis aussi de suivi, de complétude par rapport à la formation. Est-ce qu'il a réellement bien appris? Est-ce que derrière, comment il va s'en servir, etc.
Qu'est-ce que tu faisais avant ces 4 ans?
Alors en fait, moi je suis passée par plusieurs secteurs d'activité. J'ai démarré en fait dans les télécoms.
Toujours dans le marketing?
Toujours dans le marketing. J'ai commencé en étant chef de produit, donc vraiment dans une entreprise américaine. Donc j'ai vraiment appris le marketing à l'américaine, très efficace. Et puis au bout de 3 ans, ce qui était une première expérience, je suis partie dans le monde de la santé animale, dans un laboratoire pharmaceutique qui était basé à Angers. C'est comme ça que je suis arrivée à Angers. Et là, en fait, j'ai pris la responsabilité, la direction de toute la partie communication et marketing, mais j'étais plus orientée sur la communication. Comme c'est un groupe international, petit à petit, j'ai aussi eu vocation de travailler beaucoup sur la marque, la notion de marque, avec toute la notion relations presse, etc., médias. J'ai beaucoup, beaucoup plus travaillé dans ce rôle-là. J'avais une équipe avec moi de 3 personnes. Mon équipe, elle, avait plus vocation à soutenir tous les chefs de produits, en fait, lorsqu'il y avait des lancements de produits dans l'industrie pharma en santé animale. Et moi, je travaillais plus en corporate et sur les événements, principalement. Ça, j'ai fait ça pendant 12 ans. Et puis, à l'issue de ces 12 années, j'ai fait le choix de quitter suite à une fusion. Et j'ai fait le saut de l'entrepreneuriat, en fait. J'ai créé ma structure en association avec une autre personne, toujours dans le secteur agro-agri, puisqu'on connaissait bien de ce monde-là. Et on proposait des prestations en marketing et communication. Avec, moi, une petite idée derrière, déjà, dans la tête, déjà, c'était vraiment à cette période de dire, mais il faut absolument qu'aujourd'hui, les entreprises se saisissent du numérique, digitalisent au maximum leurs compétences pour pouvoir en fait aussi aborder de nouveaux marchés, aller proposer de nouvelles offres, etc. Bon, j'ai commencé à y toucher en créant ma boîte en fait, ouais. Puisque de toute façon la création d'entreprise nécessite une polyvalence forte. Et puis petit à petit aussi en parlant avec nos clients, en développant l'entreprise, je suis aperçue qu'il y avait une réelle appétence en fait pour les compétences digitales. Donc on a vraiment développé cela. Puis moi au bout de 3 ans on s'est séparés avec mon associé. J'ai continué en portage salarial pendant 2 ans où là j'ai fait des prestations, mais j'ai beaucoup plus élargi mon champ d'action, c'est-à-dire que je ne travaillais plus forcément dans le secteur agro-agri. Je pouvais travailler avec tout type de structure. J'avais acquis aussi un certain nombre de compétences sur de l'accompagnement digital, notamment lié à la marque employeur, lié à l'utilisation des médias sociaux, dans des tas de cadres différents. Puis en fait, dans le cadre de mes prestations conseil, en fait, j'ai travaillé pour une entreprise qui a effectué une levée de fonds de 10 millions d'euros en 2015 dans le monde de l'objet connecté. J'ai fait une mission pour eux et puis à l'issue de cette mission, ils m'ont proposé d'intégrer la structure en fait en la créant. Donc je suis revenue dans le monde du salariat. Je suis restée avec eux pendant 2 ans et demi et à l'issue de cette expérience, je suis arrivée où je suis aujourd'hui en fait dans le monde de la formation professionnelle à distance.
C'est un sacré parcours. Ouais. Bravo. Est-ce que tu as toujours voulu faire du marketing? Est-ce que tu avais, je veux dire, un rêve de petite fille qui était autre?
Alors, ce que je vais te dire va beaucoup te faire rire parce que j'aime beaucoup la mer. Donc quand j'étais petite, je me disais j'aimerais bien être gardien de phare. Mais bon, je me suis rendu compte en grandissant que c'était compliqué et puis que c'était très réservé aux hommes. Bon, voilà. Mais bon, bah oui, non. En fait, c'est vrai que j'ai suivi une trajectoire un peu. J'ai fait une école de commerce, puis après, j'ai voulu faire une spécialisation en communication. J'étais quand même déjà très attirée par la partie communication. Je pense que ça fait partie aussi de moi. Et puis après, voilà, je suis partie dans le monde de l'entreprise, souvent dans des secteurs assez tech, toujours en B2B, et toujours dans ces fonctions marketing et communication. J'ai eu un gros moment de doute. Enfin, j'en ai eu plein. Hein. Mais j'en ai eu un gros à l'issue de mon expérience dans le monde de la santé animale, quand ça a fusionné, puis que j'ai souhaité quitter, parce que là j'ai vraiment remis en cause mon métier en me disant est-ce que vraiment c'est fait pour moi le marketing de la communication, est-ce que j'ai pas envie de changer, de faire autre chose. Moi je me suis aussi fait accompagner parce que dans ces moments-là on a besoin d'avoir des personnes qui peuvent nous coacher, nous aider. Et puis j'ai essayé des choses, j'ai testé d'autres choses, mais je suis restée quand même dans ce monde du marketing de la communication. Ce qui m'a vraiment moi donné un souffle nouveau, c'est toute la notion de digital, de numérique, d'ouverture et sur ces mondes-là, parce que c'est des mondes de possibles. Il y a plein de choses à faire, on avait plein de choses à apprendre. Et moi mon métier du marketing tel que je l'ai fait il y a 20 ans et ou 25 ans même, et ce que je fais aujourd'hui, il est absolument forcément très différent quoi. Aujourd'hui le marketing c'est principalement du marketing digital, et puis en plus je suis dans une boîte où on travaille que sur de la formation à distance ou en ligne, donc on est que dans le monde du numérique hein.
Est-ce que dans ce monde du numérique, du digital ou aussi même de l'entrepreneuriat, est-ce que tu as eu parfois des moments où on te faisait sentir que tu n'avais peut-être pas ta place?
Ça c'est une bonne question, c'est vrai que je pense que c'est multifactoriel, mais c'est vrai que comme j'ai travaillé beaucoup dans des secteurs B2B, donc avec beaucoup de métiers, on va dire, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais un peu genrés, c'est-à-dire beaucoup d'ingénieurs en télécom, beaucoup de vétérinaires dans le monde de la santé animale, c'est vrai que parfois quand tu arrives avec une casquette qui est assez généraliste, en plus marketing, communication, et que tu es une fille, dans ces mondes-là, c'est pas toujours simple en fait, voilà, c'est pas toujours simple. On sort les rames par certains moments. Après, je pense que voilà, on a chacun ses compétences. Les humains sont tous différents et on croise toujours des gens avec qui on n'arrivera pas à fonctionner, puis d'autres avec qui on arrive à bien le faire. Donc à un moment, ça match et puis on continue. Et puis il faut aussi savoir s'imposer, il faut aussi savoir donner son point de vue, pas se laisser faire par certains moments et expliquer où on veut aller. L'explication, l'information, la répétition, c'est extrêmement important. Alors, ça paraît basique de le dire quand on fait du marketing ou de la communication, mais c'est tellement vrai, quoi, tellement vrai. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui je pense que je suis arrivée aussi dans un monde où on travaille la pédagogie quoi. Donc c'est pour ça, aujourd'hui je suis particulièrement alignée avec ce que je fais parce que je touche à la pédagogie, à la transmission. La notion de transmission pour moi est extrêmement importante vers les jeunes et les moins jeunes, mais les personnes en reconversion, mais tout le monde. Enfin, et puis maintenant on peut apprendre tout au long de son parcours professionnel, ce qu'on faisait pas forcément auparavant, enfin on l'avait moins en tête. Et aujourd'hui, mais remettons-nous en cause, apprenons sans cesse, utilisons tous les moyens qui sont à notre disposition, enfin c'est d'une richesse incroyable. Et arrêtons aussi de nous mettre des barrières, parce que parfois on croit que c'est trop compliqué ou trop technique, et parce qu'on n'a pas la formation, on va pas y arriver.
Tu voulais ajouter une précision sur ton entreprise qui utilise aujourd'hui l'IA. Est-ce que tu pourrais la présenter?
Oui, bien sûr. Donc en fait, la réflexion autour de l'intelligence artificielle est une réflexion qui est en cours dans l'entreprise depuis 4 ou 5 ans, qu'on a commencé à mettre en pratique opérationnelle depuis au moins 3 ans. On s'est basé sur notre plateforme de connaissances, en fait, qui dispose déjà d'un contenu structuré, riche d'informations, et la question s'est posée de comment on pouvait avec l'intelligence, en intégrant l'intelligence artificielle, apporter une réponse adaptée directement aux conseillers quand ils se posent une question. Donc là c'est quelque chose qui est totalement maintenant en place chez nous, à travers notamment un assistant virtuel, hein, quelque chose d'assez simple qu'on connaît déjà dans beaucoup d'entreprises, hein, qui fonctionne, qui donne un taux de satisfaction qui est très intéressant et qu'on va continuer en fait d'éduquer en permanence pour au fur et à mesure obtenir une réponse la plus adaptée à la question précise du conseiller. Et c'est un sujet extrêmement passionnant où il y a encore beaucoup de découvertes, d'évolutions à faire, et on est persuadé aujourd'hui qu'avec ce démarrage via notre assistant virtuel sur notre base de connaissances, on va de plus en plus utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre de nos bagages de formation pour notamment personnaliser en fait l'apprentissage.
Il y a un point que je voulais aborder avec toi, c'est la question du mentor et qui moi m'intéresse beaucoup. Ah, parce que c'est une manière d'évoluer, d'avancer, de me donner ton point de vue ou ta vision.
Alors c'est vrai que le mentorat c'est un sujet qui m'intéresse énormément à travers ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. J'ai dit que quand j'étais enfant j'ai eu en fait un mentor presque à travers mon grand-père. C'est bien plus tard que j'ai réalisé à quel point l'importance de la transmission, tout ce qu'il m'a apporté. Et en fait le mentorat c'est hyper important, je pense. C'est un sujet que j'aimerais bien vraiment développer pour justement essayer d'aider des jeunes femmes, des jeunes à découvrir ce que ça peut être que la réalité d'un métier, parce que souvent on n'arrive pas forcément à le découvrir, on n'a pas vraiment d'idée, et c'est encore très présent dans l'éducation actuelle. Donc le mentorat a un rôle à jouer pour expliquer la réalité d'un métier, les possibilités, ne pas se fermer sur des choses et essayer de découvrir, d'être curieux. Voilà, ouais, c'est un sujet vraiment qui m'intéresse, mais pour lequel pour l'instant je n'ai pas encore beaucoup développé d'action, mais j'aimerais bien mettre ça en place.
T'aimerais le développer au sein du CEDAP?
Pourquoi pas, effectivement, parce que nous, on est dans la transmission, donc je pense que ça aurait tout à fait son sens. Pour l'instant, on s'est engagé là depuis 2 ans dans d'autres actions qui sont très importantes pour nous, à savoir notamment une première qui est l'accessibilité numérique. C'est que tous nos supports de formation numérique sont aujourd'hui travaillés ou orientés ou disponibles en accessibilité numérique pour que toutes les personnes en situation de handicap puissent utiliser des outils en ligne. Donc ça, c'est extrêmement important et nous, on l'a développé sur toute notre base de connaissances et aussi certains outils de formation e-learning notamment. On va continuer à développer ça et être aussi à expliquer davantage ce que c'est que l'accessibilité numérique, parce que par exemple les grosses entreprises, les grands comptes ont des obligations en la matière, la plupart du temps ils ne savent pas du tout ce que c'est, donc il y a énormément de pédagogie à faire, d'explications, mais c'est hyper important. Et le deuxième point dans lequel on s'est engagé, qui était plus lié à la crise sanitaire, c'est une action de mécénat de compétences. On a vraiment voulu aussi, avec notre écosystème, développer en fait une solidarité économique avec peut-être d'autres acteurs de notre région. On a entamé une action de mécénat de compétences avec une grosse association d'Angers qui s'appelle Festival Premier Plan, et on leur réalise des capsules vidéo pédagogiques pour expliquer les métiers du cinéma.
Aujourd'hui, ça fait 2 ans que tu es à l'association. Est-ce que tu peux nous parler de ton engagement auprès de l'association AFD West et puis la raison aussi pour laquelle tu as accepté de témoigner aujourd'hui?
En fait, FDOS, ouais, c'est une association que je suis quasiment depuis le début, depuis sa création. Elle a été créée par deux femmes qui étaient Sandrine Charpentier puis Sandrine Couillet. Et je les ai suivies dès le début, en fait, sur le premier prix, etc. En fait, je trouvais leur initiative super intéressante, quoi, de donner de la visibilité des femmes dans ces mondes-là. Je trouve qu'on parle des femmes et c'est très bien de les défendre, et je trouve qu'il y a une solidarité qui se met entre nous qui est vraiment importante. Mais il faut aussi ouvrir aux hommes. Je pense qu'on peut travailler tous ensemble. Voilà. Et ça, c'est aussi ce que défend FDO, et c'est très, très bien, quoi. Donc voilà, donc l'association, je la suis depuis le début, et après, peut-être au bout de 2 ou 3 ans de l'existence, j'ai su qu'il y avait une antenne sur Angers. Je suis allée à certains petits déjeuners, j'ai rencontré des personnes avec qui aussi ça a matché, et j'ai eu cette envie de m'engager pour cette association, voilà, avec ce que je peux y apporter, ce que je peux y donner. Mais en tous les cas, s'il y a un rôle de transmission ou de besoin d'aller témoigner pour expliquer ce qu'on fait, notamment auprès de jeunes publics et tout ça, je trouve ça vraiment hyper important de le faire.
Est-ce que tu aurais justement, pour ces jeunes publics, au moins jeunes, filles ou garçons, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner?
Ouais, je pense qu'en fait, c'est peut-être plus facile à dire maintenant pour moi que quand on est tout jeune, mais il faut rester soi-même. Enfin, ça peut paraître tellement simple à dire, mais être vrai, ouais. Essayer de défendre ses convictions, mais de rester soi-même et d'être vrai dans ce qu'on fait. Je pense que c'est ça qui, au fur et à mesure de la vie, de l'expérience professionnelle, porte ses fruits, en fait.
Effectivement, c'est plus facile à dire quand on est un peu plus... comment dire, quand on a plus d'expérience.
Merci.
Et la dernière question que je vais te poser, c'est: est-ce que tu aurais un livre ou un podcast ou une musique ou quelque chose que tu voudrais partager?
Spontanément, mais je vais pas être très très original, je pense au Petit Prince de Saint-Exupéry, parce que c'est un livre qui m'a toujours suivi, qui m'a beaucoup marqué. Après, je m'intéresse à plein d'autres choses, mais là sur le moment, j'ai pas de titre en tête spécifique, donc je resterai sur celui-là.
Je te remercie, Véronique.
De rien, Sophie, avec plaisir.
On se dit à bientôt.
Oui, à bientôt.
Si vous souhaitez en savoir plus sur notre invité, je vous ai mis les liens utiles sur le site femmesdigitalwest.fr. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous suivre sur les réseaux sociaux.